VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, devrait jouer un rôle politique accru. C'est ce que souhaite le secrétaire général des Nations Unies. Dans un rapport au Conseil de sécurité, Antonio Guterres recommande de redéfinir les priorités de la MINUSMA. Eddy Sango.
Les rapports sont publiés dans la perspective du renouvellement fin juin du mandat de la MINUSMA. M. Guterres dit dans les textes avoir l'intention d'explorer les possibilités d'augmenter les rôles politiques de la MINUSMA en soutien du processus de paix. Il se base sur une étude stratégique indépendante réalisée en début d'année à la demande de l'ONU. L'étude se prononce pour l'élaboration d'un pacte pour la paix. M. Guterres soutient que l'accord de paix malien signé en 2015 reste la pierre angulaire du processus de paix. L'édit accord n'a pas, regrette-t-il, donné lieu à suffisamment de progrès significatifs sur le terrain 3 ans après sa signature. Par ailleurs, la situation humanitaire continue à empirer en raison de l'insécurité croissante dans le nord et les centres tombés en mars-avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. M. Guterres exprime sa préoccupation face à la crise alimentaire dans le pays. Les djihadistes y ont été en grande partie chassés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, mais des zones entières échappent toujours au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU.
Cour pénale internationale aux Pays-Bas, c'est cet après-midi que la chambre d'appel de la CPI se prononce en audience publique dans l'affaire contre l'ex-vice-président de la RDC Jean-Pierre Bemba Gombo au siège de la Cour à La Haye. L'audience portera sur le prononcé des jugements de cette chambre concernant les appels à l'encontre du verdict prononcé en première instance. En clair, l'ancien vice-président congolais qui a déjà passé plus de 10 ans à la CPI pour des crimes commis par ses troupes en République centrafricaine entre 2002 et 2003 sera fixé sur son sort. À Kinshasa, la population et la classe politique sont en attente de cette décision, nous dit Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire sur place, dans ce reportage.
Condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba sera fixé ce vendredi 8 juin à partir de 16h heure de Kinshasa par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Maître Aimé Kilolo, l'ancien coordonnateur de l'équipe de défense du leader du mouvement de libération du Congo, présente 3 scénarios probables.
Première possibilité, décision d'acquittement pure et simple. Deuxième possibilité, un acquittement partiel. Dans cette hypothèse, ça veut dire que la durée de la peine pourrait être sensiblement diminuée. Et si cela correspond à une peine qui ne dépasse pas 10 ans d'emprisonnement, ceci pourrait entraîner évidemment sa remise en liberté, le cas échéant, sous condition de rester peut-être en Belgique. L'autre possibilité qui existe, c'est évidemment la possibilité de confirmer la décision qui avait déjà été prise en première instance. Et dans ces conditions-là, il ne pourrait être libéré qu'à concurrence de 2/3, c'est-à-dire d'ici environ 2 ans ou 3.
À Kinshasa, la plupart des personnes interrogées par VOA Afrique espèrent la libération de Jean-Pierre Bemba. Pour elles, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo a passé suffisamment de temps à la CPI. Il est donc l'heure qu'il revient au pays pour participer aux élections.
J'ai suivi ces procès avec beaucoup d'attention et je pense que jusque-là, comme certains avocats de la CPI sont en train de le dire, le jugement sera rendu avec impartialité et que si Jean-Pierre Bemba a bel et bien commis les actes qui lui sont reprochés, eh bien il pourra subir la rigueur de la loi et si réellement son dossier n'était pas si consistant que ça, je pense que la CPI, c'est la Cour pénale internationale, c'est pas pour rien. Je pense que ça sera plutôt l'acquittement. C'est ce que, naturellement, je souhaite.
Les attentes sont beaucoup plus de son acquittement. Regardez aujourd'hui avec le contour politique, avec le contexte actuel, tous les Congolais, pour ne pas dire la population congolaise dans son ensemble, a un regard un peu plus optimiste. Si vous regardez le dernier ballet diplomatique qui a eu à La Haye avec le correspondance notamment de Herman Cohen et les autres, tout laisse voir que son acquittement est bien possible parce que non seulement cela devra se rendre dans les verdicts, mais aussi aussi parce que c'est un souhait pour tous les Congolais.
Par rapport au prononcé du jugement à la CPI, ce que nous attendons, c'est la libération. Parce que d'abord, il a déjà passé beaucoup d'années là-bas. Et puis, nous savons que on va réduire la peine. Nous avons l'impression que nous sommes, nous, les Congolais, victimes de la CPI. Il n'y a que nous à la CPI. C'est pourquoi nous pensons que le verdict qui sera rendu, ce sera une bonne chose pour que Jean-Pierre Bemba soit enfin libre. Et je sais qu'on va réduire la peine.
Nous sommes en attente de ces verdicts. Ce que nous souhaitons, c'est que Jean-Pierre Bemba soit acquitté de ce jugement pour qu'il puisse regagner son pays, pour qu'il puisse reprendre avec ses activités politiques ici au sein de son pays et au sein de son parti.
Ce point de vue est également celui de son parti, le Mouvement de Libération du Congo, dont le secrétaire général adjoint Fidel Babala s'est montré très optimiste. Alors que les victimes centrafricaines de ces éléments attendent plutôt la confirmation de ces charges, Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, après la surprise créée par la décision du président Pierre Nkurunziza jeudi de ne pas se représenter en 2020, l'opposition se penche sur les perspectives d'avenir du pays. Le scepticisme prédomine chez Maître Emmanuel Nkengu Routse, responsable du parti d'opposition UPRONA.
À des questions des journalistes qui me posaient chaque fois, est-ce que vous allez vous représenter en 2015, sachant que le troisième mandat lui était interdit. Il a dit, écoute, si le peuple me le demande, je vais le faire. Je ne vais pas le décevoir. Ça risque donc d'être le cas en 2020. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il ne puisse pas prendre à court le monde en organisant de manière anticipée les élections générales, y compris la présidentielle, où il pourra se représenter. On ne voit pas comment les deux constitutions peuvent cohabiter lorsqu'elles se contredisent de manière évidente. Je ne le crois pas. Sur base de tous ces arguments, je ne crois pas à ses paroles. Il a déjà prouvé qu'il n'était pas sincère, qu'il n'était pas loyal.
Maître Emmanuel Nkengu Routse, un responsable du parti d'opposition UPRONA au Burundi. En Afrique du Sud, le procès de l'ex-président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes vieilles de près de 20 ans, a été renvoyé ce vendredi au 27 juillet. La question des honoraires des avocats de M. Zuma serait à l'origine du report. L'ex-président veut que ces honoraires soient pris en charge par l'État. Et toujours concernant l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa veut rassurer la communauté blanche africaine du pays. Celle-ci ne doit pas percevoir le projet de réforme agraire comme une menace, mais plutôt comme un moyen de mobiliser le potentiel économique du pays et de guérir les divisions du passé, a déclaré le chef de l'État sud-africain. Les précisions de Lionel Gaïma.
Cyril Ramaphosa, qui a succédé en février à Jacob Zuma, a promis de redistribuer les terres à la majorité noire en réponse aux profondes inégalités raciales qui persistent dans le pays plus de deux décennies après la fin de l'apartheid. Toutefois, il a du mal à calmer les appréhensions des blancs sud-africains qui redoutent une violente occupation de leurs terres si l'opération était mal menée. Il ne faut pas voir la question de terre comme une raison de faire ses bagages et partir, a plaidé le président Ramaphosa hier lors d'une réunion de l'Africanair Bond, une organisation fondée il y a un siècle pour défendre les intérêts des descendants des colons hollandais. C'est une occasion de bâtir une société plus juste et plus équitable, qui utilise pleinement et efficacement ses ressources, a expliqué le chef de l'État sud-africain. Cyril Ramaphosa, qui a joué un rôle clé dans les négociations et a mis fin au régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, a appelé les Afrikaners à aborder la réforme agraire dans le même esprit que celui de la transition vers la démocratie.
Et pour terminer, les États-Unis ne cherchent pas un changement de régime à Djouba, a assuré le nouvel ambassadeur américain au Soudan du Sud. Thomas Ouchek dément ainsi catégoriquement les accusations répétées des dirigeants sud-soudanais contre Washington. Timothée Donangmaï.
Les États-Unis veulent que la paix revienne au Soudan du Sud après 4 ans et demi de conflits armés, a déclaré l'ambassadeur Hochek dans un entretien exclusif accordé à South Sudan Focus, une émission de la Voix de l'Amérique consacrée au Soudan du Sud. Nous aimerions voir un changement de comportement chez les leaders sud-soudanais, tant au sein du gouvernement qu'en dehors, afin de s'orienter vers cette paix et la réaliser, a souligné le diplomate américain. Selon Thomas Hochek, Washington entend recourir à des sanctions ciblées combinée à des approches plus positives comme le dialogue avec le peuple et les dirigeants sud-soudanais pour atteindre cet objectif. Si Washington n'obtient pas l'appui de l'ONU, de l'Union africaine ou de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, sur ce dossier, il appliquera ses sanctions de manière unilatérale, a averti l'ambassadeur Hochek.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.